Trigger warning, cet épisode parle de violence.
Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kautar Archi.
C'est parti!
Lors des leçons de sécurité, territoire, population données au Collège de France en 1978, Michel Foucault présentait ainsi les objets dont la police prétend désormais s'occuper. Le nombre de citoyens, les nécessités de la vie, la santé, les métiers et la circulation. Cette liste ne cesse aujourd'hui de s'allonger. Alors de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de violence policière? Et comment les notions de genre, classe et race peuvent-elles nous aider à donner du sens à tout cela? On va en parler aujourd'hui avec Kautar Archi. Salut!
Bonjour Clémentine.
Welcome back.
Merci, heureuse d'être de retour dans l'émission. Ouais.
Ça va?
Ça va bien, merci. Et toi Clémentine, comment tu vas?
Ça va, je voulais en profiter pour faire une petite minute auto-promo, puisque mon livre qui est co-écrit avec Caroline Michel sur la charge sexuelle est sorti aux éditions First cette semaine.
Félicitations!
Merci! Donc il est en librairie et voilà, si la question des inégalités dans l'intimité et de la charge mentale autour du sexe vous intéresse, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, mais pour passer...
Merci,
Clémentine. De rien. C'est un plaisir. Pour passer au sujet de la semaine qui est autrement plus sérieux, on ne pouvait pas ne pas parler des violences policières face au soulèvement massif qui a lieu depuis quelques semaines. Est-ce que tu pourrais nous rappeler d'abord le contexte à la fois ici et ailleurs?
Oui, effectivement, on peut dire que le contexte, les contextes auxquels on a eu affaire ces derniers temps ont été particulièrement tendus et difficiles. Et on peut en effet considérer que ce sont bien ces contextes-là qui ont favorisé le resurgissement de cette problématique sur le devant de la scène du débat public. Alors, si on essaie de reprendre quelques éléments de ce contexte, on peut peut-être tout d'abord rappeler, même si le souvenir ne doit pas être très lointain, que durant le confinement, la police, les agents de police en particulier, ont été particulièrement zélés lors des contrôles des attestations de sortie. Beaucoup de papiers, beaucoup de témoignages, beaucoup de reportages ont pu attester du fait que le département du 93, par exemple, avait été particulièrement visé comme un département indiscipliné, voire comme un département qui participe à la prolifération de l'épidémie. Par ailleurs, dans un temps peut-être un peu plus proche de nous, il y a eu cet entretien lors d'une émission avec la comédienne et chanteuse Camélia Jordana.
Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie.
Qui, lors d'un entretien avec Philippe Besson, a affirmé avoir peur lorsqu'elle croise la police, et elle a considéré que cette peur était partagée par un grand nombre de personnes de la population, ce qui a provoqué dès le lendemain une sorte de tollé général, de levée des boucliers, jusqu'à ce que Christophe Castaner intervienne, jusqu'à ce que les syndicats de police eux-mêmes interviennent, en considérant que potentiellement une plainte serait déposée.
Serait la bienvenue.
Exactement. Par la suite, dans une sorte d'entrechoquement des drames, il y a eu cette vidéo qui a circulé à travers le monde entier, à travers laquelle nous pouvions voir George Floyd, un homme noir de 46 ans, originaire de Minneapolis, être littéralement étouffé sous le poids du corps d'un agent de police qui le contrôlait, son genou appuyé contre sa gorge. Ça a fait évidemment un électrochoc quasi mondial.
We begin tonight with one of the biggest nationwide days of protest since the killing of George Floyd in police custody. A 12th day of demonstrations in dozens of cities.
Et en France, cela a connu une forme de retentissement d'autant plus amplifié que quelques jours plus tard, l'affaire Adama Traoré connaissait une nouvelle étape dans son déroulement, puisqu'une expertise supplémentaire, considérer que le jeune homme noir était bien décédé d'une asphyxie, mais que celle-ci n'était pas due à la compression de sa cage thoracique sous le poids des gendarmes qui étaient littéralement sur lui, mais d'antécédents et de fragilité cardiaque propre à la constitution physique d'Adama Traoré. Ce qui a relancé le combat de la famille et du comité Adama Traoré et qui a produit les mobilisations, les manifestations que nous connaissons, puisque nous sommes encore en plein dans cette actualité.
Oui, à cela s'ajoute aussi le député des Alpes-Maritimes, donc Éric Ciotti, qui a récemment déposé une proposition de loi visant à rendre non identifiables les forces de l'ordre lors de la diffusion d'images dans l'espace médiatique. Voilà, on ne sait pas encore si cette loi va passer ou pas, en tout cas au moment où on enregistre. Et il faut rappeler que le candidat Emmanuel Macron, à l'époque de la campagne présidentielle, disait qu'il serait intraitable, je le cite, sur les violences policières.
On voit vraiment à travers cette démarche que ce qu'Éric Ciotti essaie de faire, c'est finalement de mettre les futurs partis civils qui décident de porter devant les tribunaux le dossier de la mort de leurs proches, de les affaiblir encore plus dans la constitution des preuves qui pourront les aider à prouver justement qu'il y a eu une violence à l'origine de la mort de la personne en question. Et évidemment, de la part d'Éric Ciotti, au regard de sa trajectoire politique, de ses prises de position, on n'en attendait pas moins.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue.
Mais cette proposition de loi n'en est pas moins choquante et profondément révoltante. Et dans cette continuité, on peut citer aussi l'intervention du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au soir du 8 juin. Il a décidé de prendre la parole par rapport à ce qu'il se passe actuellement en France. Il a, comme à son habitude, réfuter l'idée même de violence policière. Il a tenté, on pourrait dire, de ménager à la fois les consciences citoyennes, on pourrait dire, et le travail mené par les comités et les différents militants, mais il a aussi surtout tenu à ménager les personnes sur lesquelles il veille quasi officiellement, c'est-à-dire les agents de police et l'administration policière de manière plus générale, en considérant que ces derniers avaient sa confiance, mais que par ailleurs, il allait mettre en place des formes de contrôle beaucoup plus systématiques des différents cas de violence policière, entre guillemets, qui sont dénoncés. Il a, par exemple, avancé cette chose qui reste assez paradoxale, c'est-à-dire, par exemple, interdire les techniques d'étranglement. Rien que le fait de prononcer cette phrase « interdire les techniques d'étranglement » laisse songeur, mais pas le plaquage ventral. Or, pour ceux qui sont un peu au fait des techniques policières, on sait bien que la technique d'étranglement est profondément liée à la technique du plaquage ventral. L'une ne va pas sans l'autre. Donc, dans le répertoire même d'action des policiers, on voit bien qu'il y a une forme de trouble qui était déjà présent jusqu'à présent, mais qui est là plus encore mis en évidence. Et les propos de Christophe Castaner sont d'autant plus difficiles à entendre, humainement, au regard des morts qui sont survenues, mais aussi politiquement, par rapport à la stratégie du gouvernement, puisque le défenseur des droits a demandé des poursuites disciplinaires dans environ 36 dossiers de violence policière, et on sait qu'à ce jour, très peu de ces 36 dossiers-là ont été mis en étude.
Il y a un mythe qui vient d'être exprimé et qui est répété par les syndicats de police à longueur de temps, qui est la police est extrêmement surveillée et sanctionnée. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'elle est sanctionnée sur, par exemple, des manquements au règlement. Elle est sanctionnée parce que des policiers utilisent, par exemple, l'ordinateur pour faire des recherches sur tel ou tel, utilisent la voiture de fonction pour aller faire un déménagement. Ça, c'est sanctionné. Et c'est même assez redoutable. Mais dès lors qu'on parle de choses vraiment importantes, c'est-à-dire d'atteinte sur les personnes, alors là, pardonnez-moi, la justice passe très très peu. Et pourquoi la justice passe peu? La justice pénale, parce que c'est celle-ci qui nous intéresse. Parce que elle passe, elle se base sur les enquêtes de la police des polices. Et c'est là le drame, c'est là le nœud. La police des polices, pardonnez-moi, je prends juste l'éditorial de la chef de l'IGPN. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'IGPN a désormais une triple ambition. Première ambition, valoriser l'institution et ses agents.
Oui, d'autant que à ce contexte-là s'ajoutent des révélations de Street Press, selon lesquelles au moins deux groupes Facebook privés rassemblant plusieurs milliers de policiers et de militaires contenaient des messages racistes et homophobes. Heureusement, ceux-ci ont été saisis par la justice depuis, mais voilà, tout ça rajoute évidemment au contexte et aux propos de Christophe Castaner qui dit qu'il n'y a pas de racisme institutionnel dans la police.
Qui refuse même de poser la question. Enfin, je veux dire, qui refuse même de considérer la chose à partir de simplement la consultation des études antérieures qui ont été réalisées à ce titre-là. Donc, on mesure bien la très grande tension et le gouffre assez immense qui existe désormais entre les aspirations et les différentes mobilisations dans la rue et la manière dont le gouvernement, par la voix de Christophe Castaner, se positionne à cet égard.
Mmh. Et au même moment, les réseaux sociaux ont également relayé les images très choquantes qui ont suivi l'incarcération de Gabriel, 14 ans, qui a été arrêté à Bondy pour avoir tenté de voler un scooter, qui a subi de la part des autorités de police des fractures, des hématomes et d'autres blessures, ainsi que 30 jours d'interruption de travail.
Il a mis les genoux sur mon dos. Il y a une femme, elle m'a tenu les pieds. Et pendant qu'un barbu policier me tapait avec la pointe de ses pieds.
Et je pense qu'en préambule, il faut aussi rappeler jusqu'à quel point la comparaison entre la France et les États-Unis est pertinente, en tout cas sur les questions de violence policière. Rappelons tout de même qu'aux États-Unis, la police relève des autorités locales, qu'il n'y a pas de ministère de l'Intérieur comme en France, que chaque pays a une histoire de colonisation, de décolonisation, voire de génocide qui lui est propre, ainsi qu'une histoire de ces institutions de police et de justice. Et à titre comparatif, aux États-Unis, il y a proportionnellement plus de morts sous les coups de la police, mais en France, davantage de contrôles d'identité. On peut aussi comparer avec l'Angleterre, qui comptabilise très très peu de morts, mais ça n'empêche pas que des discriminations très fortes persistent. Voilà, en tout cas, en France, on sait que la confiance entre la police et la population est faible comparativement à d'autres pays, notamment à cause de la question des contrôles d'identité très fréquents qui semblent être une spécificité française. Et à cela s'ajoute aussi une tradition de protestation qui n'est pas la même entre les deux pays, la manifestation étant un recours moins habituel aux États-Unis qu'en France. Kaoutar, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel historique, peut-être sur l'histoire de la police, qu'on y voit un peu plus clair ?
Oui, par rapport à la question de l'histoire de la police, on peut penser à un chercheur en particulier qui pourrait être qualifié d'historien de cette administration, de cette institution. C'est Jean-Marc Berrière qui nous dit à ce propos-là, à propos donc de la police, bras séculier du pouvoir, rempart du régime, institution chargée de protéger les personnes, les biens et l'ordre public, de garantir la sûreté définie comme un des droits de l'homme en août 1789, mais aussi la police est un parfait instrument de coup d'État. La police, en fait, en France et pendant toute cette période, il faudrait parler des polices. Peut-être considérer cela comme l'ordre même qui préside à l'organisation d'une société. Son action, ses pratiques, ses pouvoirs, l'usage qui en est fait, les instructions qu'elle reçoit, son attitude et sa manière de les appliquer, mais aussi ses espaces d'autonomie et d'initiative caractérisent autant un régime, une période, l'état réel des libertés, ainsi que la législation et le discours politique officiel. Je trouve que c'est une citation qui est importante simplement parce qu'elle permet d'une manière assez précise de revenir sur ce qu'on dit souvent quand on dit « il y a quelque chose de structurel dans l'organisation policière ». On voit bien ici, avec la question du contexte politique, avec la question des différentes tâches qui sont assignées aux polices au pluriel, qu'il y a quelque chose d'un ordre qui dépasse les simples volontés individuelles, mais qui reposent au contraire sur des formes de régularité, sur des formes de croyance, sur des valeurs, et avec un rôle structurant de l'État. On oublie peut-être parfois à quel point il y a une relation intime entre les politiques mises en place par l'État et la manière dont la police, dont l'administration policière est chargée de les faire respecter. Et de les faire respecter, bien évidemment, au niveau des lois, mais au niveau aussi du contrôle des corps, du contrôle des corps face aux lois qui sont mises en place.
Oui, on va y revenir avec Foucault, mais d'abord, il faut rappeler que la recherche, en tout cas en France, a été assez en retard sur l'étude de cette institution, peut-être dû en partie à un mépris mutuel des chercheurs et de la police. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, historiquement, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, la police, qui n'était pas encore la police telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'occupait principalement de la gestion du quotidien et de l'application de la loi, et que la police moderne a émergé changé finalement à la fin du XVIIIe siècle, puisque la préfecture de police telle qu'on la connaît est en fait un héritage napoléonien qui s'est poursuivi ensuite sous la Troisième République et plus tard. Et sans surprise, la police nationale est née sous le régime de Vichy. Elle est venue remplacer ce qu'on appelait à l'époque les gardiens de la paix. Donc depuis, certaines figures de la police ont été bien connues des Français et des Françaises. Par exemple, le préfet Maurice Papon, qui ne s'est pas distingué pour ses bonnes actions. On connaît aussi l'arsenal de la police qui a beaucoup évolué, de la hallebarde aujourd'hui à la matraque, au gaz lacrymogène, aux grenades de désencerclement, au bâton télescopique qui a été impliqué notamment dans l'affaire Théo, on y reviendra. Il faut aussi rappeler la diversité des corps de métier, puisque ce ne sont pas les mêmes pratiques quand on appartient au contre-espionnage, au CRS, à la DST, à la police municipale, à la police judiciaire, aux brigades mobiles, à la police politique DRG, etc. Et enfin, je pense qu'il est quand même bon de rappeler que le vote policier et militaire reste majoritairement en faveur du Rassemblement national. Voilà. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui va t'extrême. Alors peut-être que tu pourrais nous éclairer sur l'apport d'un philosophe en particulier qui a travaillé sur la compréhension de la police, son rapport à l'État et son rôle dans le contrôle des populations, c'est Michel Foucault.
En effet, Michel Foucault a assez largement contribué à éclairer ou en tout cas à définir quelques pistes de recherche par rapport à la question de ce que serait la police. Premier élément sur lequel Michel Foucault va insister, c'est qu'il va rattacher la police à la question du contrôle et plus précisément à ce qu'il appelle la question du biopouvoir. Le biopouvoir, selon Michel Foucault, sans entrer ici dans une leçon, ce n'est pas le lieu et nous n'avons pas le temps, c'est tout simplement la question du contrôle de la vie, comme l'indique le nom, c'est-à-dire le fait de contrôler, d'assurer un type particulier de vie à la population. Et cette question du biopouvoir, c'est évidemment quelque chose qui exerce une contrainte, et cette contrainte, elle a pour objectif de favoriser ce que Michel Foucault va appeler la splendeur de l'État, c'est-à-dire faire en sorte que l'État puisse rejaillir continuellement sur sa population en tant que souverain, en tant que légitime, en tant qu'État fort et puissant, mais aussi en tant qu'État respectable et qu'il faut donc absolument respecter. Ce que va nous apporter Foucault, peut-être encore plus précisément par rapport à la question de la police, c'est cette question de l'art du gouvernement, l'art des gouvernances. Comment faire en sorte, à partir d'un appareil policier, que les gens se rendent gouvernables, qu'ils se rendent disponibles à obéir aux lois qui sont définies par les autorités publiques. Il va donc mettre en place cet état-là, différentes formes de mesures disciplinaires, on pourrait dire différents corps étatiques, différents corps officiels comme l'armée, mais aussi comme l'école, bien évidemment aussi comme la police urbaine, qui a pour objectif de maîtriser, de contrôler, de surveiller, de documenter les différents agissements de certains groupes sociaux au détriment d'autres groupes en particulier. Ce qui va nous rester de cette vision foucauldienne, c'est bien évidemment cette idée très forte des mécanismes disciplinaires, mais traversée par des problématiques qui sont beaucoup plus liées notamment à la question postcoloniale. On va voir surgir, notamment sous la plume du philosophe Achille Mbembe, non plus seulement la question de la biopolitique, du biopouvoir, mais plutôt de ce qu'Achille Mbembe va nommer la nécropolitique. Et on voit bien ici le passage qui se réalise, ne serait-ce que d'un point de vue théorique, entre quelque chose qui relève du bio, de la vie, de l'entretien de certaines formes de vie, à la nécro, c'est-à-dire l'entretien de certaines formes de mort. Et la nécropolitique, c'est clairement ça. Ce sont les politiques de la mort extrêmement diversifiées à travers l'histoire que l'État, soutenu par ses polices, va mettre en place. Ce concept de nécropolitique, on le retrouve très régulièrement aussi sous la plume du chercheur en sociologie Mathieu Rigouste, qui suggère notamment deux choses importantes. D'une part, la nécessité de saisir les dispositifs étatiques comme traversés par des vraies pratiques diversifiées de ciblage des populations les plus fragilisées. Bien évidemment, ici, la question du rapport de classe et du rapport de race vont jouer d'une manière particulièrement prégnante. Et d'autre part, la nécessité de replacer ces dispositifs au sein de l'histoire qui est la sienne. Et donc, comme tu le disais auparavant, Clémentine, la constitution des polices à l'intérieur du cadre colonial et à l'intérieur du cadre esclavagiste fait qu'il demeure quelque chose d'une certaine perception des populations les plus favorisées à travers les répertoires d'actions policières.
Mmh. Oui, justement, la police a participé à de nombreux épisodes de crise qui créent en tout cas une certaine continuité jusqu'à aujourd'hui. Tu parlais de la colonisation, on peut aussi citer la Commune, qui est quand même une répression militaire de sa propre population, donc c'est quand même assez, assez spécial. On peut aussi citer l'épisode des anarchistes, donc à l'aube des années 1900, qui est une figure qui hante encore les discours aujourd'hui, y compris ceux de Donald Trump, et donc qui a été une peur agitée un peu partout à l'époque. On peut aussi parler de mai 67 en Guadeloupe où des insurrections populaires ont été très violemment réprimées par la police.
Je suis tombé et j'ai vu tout de suite que ma jambe était déchiquetée. Je l'ai tenue. J'ai vu la chair qui se repliait, je l'ai tenue. Et surtout, j'ai fait le mort. Si je n'avais pas fait le mort, on m'aurait achevé. Parce que tu ne dois pas laisser de témoins dans de telles situations. J'ai tout de suite compris que j'avais reçu une balle de dos, sans sommation ni couvre-feu, de dos et sur la jambe droite.
Dans le secret, à tel point qu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le bilan des morts. Il y a évidemment aussi mai 68, là surtout en métropole, où on a pu voir des traitements différenciés dans les interventions policières face aux ouvriers, aux ouvrières, et de l'autre côté, aux étudiants et aux étudiantes, donc majoritairement issus de classes aisées et blancs et blanches. Et quelques années plus tard, un épisode particulièrement infamant, surtout pour le préfet de police de l'époque, c'est l'assassinat en 1986 d'un étudiant de 22 ans par la police lors d'une manifestation, donc c'est Malik Houssekine, et une plaque de commémoration lui rend aujourd'hui hommage, mais pas totalement puisqu'elle écrit « frappé à mort lors de la manifestation ». Voilà, donc on voit que les mots ne sont pas très précis.
C'est un commissaire de police qui s'occupait de la sécurité publique et qui avait une passion pour sa propre fille qui lui disait « papa, rentre à la maison ». Et au moment où le ministre va se coucher, allez-vous coucher, vous pouvez vous dormir tranquille, tout est sous contrôle. Eh bien, cet officier de police envoie les voltigeurs en question et Charles Pasqua découvre la mort de Malik Houssekine. Il se fait réveiller à 2h du matin.
Oui, et je me souviens, et ça avait énormément circulé sur les réseaux sociaux lors d'un anniversaire récent de la mort de Malik Houssekine, où des militants avaient apposé sur cette plaque une sorte de carte supplémentaire sur laquelle était marqué « frappé à mort lors de la manifestation » par la police française. Et là, le fait de rappeler l'origine de l'acte qui a causé la mort, effectivement, est porteur d'un geste symbolique, d'un geste même quasi politique très, très fort. Et on voit bien comment, à travers une simple plaque de commémoration, l'État essaye de s'effacer de sa propre implication de ce qu'il commémore. C'est assez étonnant. Effectivement, comme tu le dis, les périodes de crise nationale ont été particulièrement sujettes à des troubles au sein de l'ordre policier. On peut parler aussi des années 80, qui sont des années vraiment complexes, avec une France qui est en mutation à de très nombreux niveaux, et qui sont aussi le théâtre d'un nombre assez important de crimes racistes, dont les victimes sont majoritairement de jeunes hommes descendants de l'immigration postcoloniale, et ça dans un contexte de puissante montée du Front National et de raidissement généralisé des élites politiques et médiatiques quant à la reconfiguration des différentes populations qui composent la société française. Donc, on parlait de Malik Houssekine, on peut aussi rappeler par exemple le meurtre d'un jeune homme, Habib Grimzi, qui a été jeté d'un train par trois légionnaires après avoir été agressés et battus à l'intérieur même de ce train. Donc il y a toute une sorte de mémoire traumatique des crimes racistes liés à l'ordre policier en France autour de ces années-là. Et cela va annoncer ce qui arrive par la suite, c'est-à-dire les années 90 qui ne sont pas moins meurtrières à cet égard.
On se souvient aussi de l'année 1992 où ont eu lieu des soulèvements à Los Angeles, car des policiers avaient été acquittés après avoir passé à tabac Rodney King, un jeune homme noir, au terme d'une course-poursuite.
We're southbound on Pax. There's going to be three male blacks in a vehicle. It's a white Hyundai, I believe.
At any time during this evening, did it go through your mind that this was not a human being that you were beating?
On peut également citer les soulèvements qui ont eu lieu dans certains quartiers français en 2005 et qui ont abouti à la création de la catégorie jeunes de banlieue. Et on rappelle que ces soulèvements ont eu lieu suite à l'électrocution de deux jeunes hommes, Ziad Benna et Bouna Traoré, dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois.
Et en 2015, on avait rencontré Siaka Traoré, le grand frère de Bouna Traoré.
En fait, t'as vu, si j'avais des clés, je rentrais chez moi, j'entendais des rires, c'est qu'il était à la maison. Il aimait beaucoup le foot. Il jouait au foot, il était assez coquet, tu vois, beau gosse, tu vois, il était toujours... Tu vois, c'était, il était apprécié de tout le monde, c'était le chouchou de tout le monde, c'était une mascotte, tu vois, c'était pas celui qui portait un mépris à qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire, non. Il était toujours souriant. C'était mon petit frère, c'était un ange.
On peut aussi mentionner l'affaire Théo, un jeune homme qui a été agressé sexuellement par des policiers en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Et on se souvient également de l'image des lycéens à genoux devant la police à Mantes-la-Jolie en 2018. Voilà, cette liste juste pour donner une idée.
Évidemment, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive et elle ne vise pas à être exhaustive, mais seulement à donner quelques éléments de compréhension par rapport à l'ampleur de la situation. Et plus proche de nous encore, à l'aune de l'affaire Adama Traoré, qui est donc ce jeune homme qui a été tué en 2016 à Persan, sa sœur, Assa Traoré, et le philosophe Geoffroy de Laganerie, qui travaillent ensemble avec le comité Adama Traoré dans le but de faire reconnaître la culpabilité des policiers face à un tribunal. C'est cet objectif-là qui est visé. Dans l'ouvrage qu'ils ont coécrit, écrivent, si cette interprétation est exacte, les scènes qui nous apparaissent comme des violences policières sont le contraire de dérapage. Ce sont des moments où se manifeste l'essence de la police. La police est en effet dotée d'un caractère essentiel qui rend cette autorité si problématique dans un état de droit. Elle occupe une position telle qu'elle peut interpréter, donner du sens, resignifier les règlements censés encadrer sa propre activité. Elle peut sans cesse, comme le dit Walter Benjamin, étendre elle-même le domaine de ses fins. L'ignominie de la police tient à l'absence de toute séparation entre la violence qui fonde le droit et celle qui le conserve. Donc on voit bien ici à quel point, à nouveau, ce n'est pas l'individualité des policiers qui est visée, mais bien l'organisation structurelle, l'organisation systémique de l'ordre policier lui-même.
Oui, ce ne sont pas quelques mauvaises graines, comme on a pu l'entendre ici et là, et ce qui mimerait le hashtag « Not all men » appliqué aux forces de police. Donc la question, évidemment, à 100 euros qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il des violences et quels mécanismes permettent ces pratiques-là? On rappelle que la police a le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire que c'est donc un organisme de régulation des conflits sociaux, et par ce biais, tu l'as rappelé, elle a participé à divers épisodes comme la collaboration, la colonisation ou les coups d'État. Il y a un chercheur français qui s'est penché sur la question justement des violences dans son ouvrage qu'il a intitulé « Bavure policière avec un point d'interrogation » qui est paru en 2002 et dans lequel, je le cite, il s'est attaché à saisir ce qui, dans les univers sociaux des personnes les plus amenées à fréquenter la police, donc ce qu'on appelle les délinquants récurrents, apparaît comme des déterminants de l'occurrence de l'emploi de la force par la police. Il a donc étudier ce qu'il a appelé les univers de contingence des violences policières, c'est-à-dire les circonstances qui amènent les violences avec une plus forte probabilité qu'ailleurs à se produire. Donc il cite notamment la condition sociale des personnes visées, les logiques de sanction du métier de police judiciaire, son rendement, les contraintes géographiques du métier de sécurité publique, donc ce qu'il appelle le territoire. Il explique que la technologie politique des corps ainsi fondée sur quelques répertoires récurrents d'atteintes offre quelques ponts vers le domaine plus large des modes de domination contemporains. Alors il pose la question, qui est ce qu'on appelle la clientèle policière? Il dit que l'anomie, donc c'est l'absence d'organisation ou de valeurs communes à un groupe, c'est ce qui caractérise ces personnes qui disent avoir été victimes de violences. Donc il y a l'errance dans la ville, la difficulté de bénéficier d'un espace privé, la précarité des ressources, mais aussi la difficulté conséquente d'échapper à l'attention des policiers. Il écrit que les arènes de coexistence des policiers et de leur vis-à-vis, donc leur vis-à-vis, ce sont les personnes que les policiers rencontrent, enferment de ce fait une probabilité élevée d'emploi de la violence physique. D'autant plus qu'à ces facteurs liés aux conditions de vie sur la voie publique, les logiques propres du métier de police judiciaire et l'exigence de productivité des agents redoublent la probabilité de l'emploi de la force. Voilà, alors ça, ce sont quelques pistes d'explication. Maintenant, je pense qu'on peut se demander pourquoi ces questions-là sont abordées dans cet épisode et pourquoi elles ont un lien avec les problématiques de genre, de classe, de race et donc aussi de féminisme. Tout ça nous amène à nous interroger sur la blanchité. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, effectivement, tu as bien fait de rappeler ces propos de Fabien Jobard, qui a travaillé sur les questions policières. Je trouve que ça a l'avantage de rappeler qu'on ne peut, sur ces questions-là, pas se permettre de faire l'économie de la réflexion. Et on le voit bien, ce sont des réflexions qui sont vraiment complexes, puisqu'elles mettent en articulation différents éléments tels que l'histoire, la société française elle-même, le rôle et l'histoire de l'État. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi des degrés de complexité supplémentaires dès lors qu'on aborde les choses sous un angle peut-être plus intersectionnel. C'est quelque chose auquel on a l'habitude ici dans Quad Meuf, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que le genre, la classe et la race viennent faire finalement dans cette histoire et de cette histoire. Et effectivement, comme tu le dis justement, Clémentine, la notion de blanchité, elle nous intéresse particulièrement. Alors, c'est une notion qui fait couler beaucoup d'encre, et ça d'autant plus fortement qu'elle est, ces derniers temps, on a pu le voir dans un certain nombre de papiers, mais aussi d'émissions de télévision ou de radio, rattachée donc à ce qu'on appelle le privilège blanc. Alors, d'un point de vue théorique, on pourrait définir la blanchité comme une condition sociale, ce qui veut dire que la blanchité ne renvoie pas à une couleur de peau, ou en tout cas, ne renvoie pas à une couleur de peau sans la signification sociale qui est rattachée à cette couleur-là. Donc c'est bien pour ça que blanchité, c'est une condition sociale qui confère à celles et ceux qui la partagent une position spécifique qu'on peut nommer position majoritaire. Et cette question, elle a notamment été développée au sein de ce qu'on appelle les whiteness studies, développé notamment dans les pays anglo-saxons. De là, on peut essayer de préciser un peu les choses. La blanchité ou la condition blanche, elle se caractérise par les éléments suivants, à savoir la perception, la conviction ou encore le sentiment qu'en tant qu'individu blanc, c'est-à-dire rattaché à cette condition blanche, on n'est pas réductible à un type, on n'est pas réductible à des stéréotypes, à des clichés ou encore à des caractéristiques fixes ou immuables telles que les autres le sont. Autrement dit, c'est un point de vue qui est assez intéressant puisque ça veut dire que lorsqu'on appartient à la condition blanche, on a le sentiment qu'on bénéficie d'une forme d'universalité alors que les autres sont des êtres particuliers et que ces êtres particuliers, vous pouvez les décrire en 3-4 caractéristiques alors que l'individu blanc échappe à toute nomination. Et c'est bien ça qui dérange dans les rangs politiques de la droite et de l'extrême droite, c'est que tout d'un coup, ils sont nommés alors qu'ils ont l'habitude, eux, d'être les seuls à pouvoir nommer les autres. Ce qui fait dire que souvent, la race, effectivement, c'est les autres. Or non, la race, ce n'est pas les autres, la race, c'est tout le monde. Tout le monde est dans un système de racialisation. Simplement, quand vous êtes un individu rattaché à la condition blanche, vous êtes racialisé favorablement. Or, quand vous êtes de condition non blanche, vous êtes racialisé d'une manière défavorable. Votre point de vue, par exemple, est réduit.
Oui, ça devient invisible, quoi, comme le fait d'être un homme.
Exactement.
Participe, un homme hétéro cis, en tout cas, c'est la norme, donc c'est le
exactement.
Neutre, en fait.
Exactement. Et c'est bien pour ça que l'articulation race-genre, dans les whiteness studies, mais aussi dans d'autres types d'études associées à la question de l'origine de classe, est vraiment fondamentale parce que ce sont des rapports de pouvoir invisibilisés, souvent, mais rapport de pouvoir tout de même.
Et justement, sur la question du racisme et du classisme systémique, il y a une revue qui s'y est consacrée en 2016, c'est la revue Vacarme, qui s'est interrogée sur la temporalité de l'état d'urgence, en se demandant qu'est-ce qui a changé depuis l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce que c'est l'intensité, les cibles, les techniques de répression, l'articulation avec l'institution judiciaire? Est-ce que c'est l'autonomisation croissante du corps policier? Ou de nouvelles consignes politiques. Alors, un membre du collectif La Chapelle Debout, qui s'appelle Oussam, est interrogé dans la revue, et son témoignage est assez éclairant, je pense, en regard de ce dont tu viens de parler. Il dit « Personnellement, j'ai intégré que j'étais un sous-citoyen. Je pourrais mourir dans un commissariat, par exemple, ça pourrait arriver. Mais un migrant, lui, j'ai le sentiment qu'on pourrait le tuer dans la rue. » C'est-à-dire qu'il y a vraiment une hiérarchie, en fait, raciale et sociale, et qu'en plus, on donne aux personnes blanches souvent les raisons du contrôle policier, même s'il est vrai que cet arbitraire devient de plus en plus grand. Il y a en tout cas un continuum avec la justice, je cite, puisque c'est la justice qui, de manière décisive, va réintroduire les frontières de classe parmi les gens qui se sont fait taper de manière indiscriminée par la police, qui va donc rétablir des jugements différenciés. C'est-à-dire que si tout le monde se fait arrêter, encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui vont être discriminées par la justice et les mêmes qui vont être épargnées. Voilà. Et on rappelle que la violence policière peut aussi donc être administrative, elle n'est pas nécessairement liée à la force physique. Donc ça peut être le fait de demander des papiers, mais aussi de refuser un dépôt de plainte, ce qui est illégal, hein. On le rappelle encore une fois. Voilà, et tout ça, on en a souvent un exemple dans la presse, puisque les violences policières se manifestent aussi sous la forme d'un discours et d'une forme d'événement médiatique, en fait.
Effectivement, cette surenchère de discours et d'événements médiatiques auxquels on a assisté ces derniers temps ont aussi permis de faire émerger des formes d'asymétrie assez saisissantes et d'autant plus visibles que des images ont pu être diffusées sur les réseaux sociaux. Je fais notamment ici référence à l'intervention de Rokhaya Diallo, la militante réalisatrice, autrice sur RTL. Elle est intervenue pour défendre son point de vue et sa parole n'a cessé d'être coupée.
La France a été condamnée pour la première fois par la Cour européenne des droits humains en 1999 pour des violences policières racistes et elle l'est régulièrement depuis.
Mais ça ne veut pas dire que c'est institutionnel. Si vous avez des policiers qui se comportent mal, que c'est institutionnel, Rokhaya.
Je sais que ça vous pose problème
si vous dites des choses comme
de laisser
ça,
la seule personne noire autour de cette table parler de violence raciste. Je suis désolée, mais c'est hyper choquant en fait que la seule personne qui soit concernée potentiellement par le racisme.
Je peux vous interrompre si j'estime que vous dites une bêtise, c'est le principe de cette émission.
Moi, j'ai estimé que vous disiez des bêtises et je vous ai pas interrompu.
Alors, je n'ai pas compté précisément combien de fois Rokhaya Diallo a été interrompue dans le déploiement de sa pensée, mais en tout cas suffisamment pour qu'elle demande elle-même à pouvoir parler sans être interrompue. Et c'est d'autant plus frappant de voir à quel point Rokhaya Diallo, sur cette question-là, a été interrompue, alors que Pascal Blanchard, qui travaille dans le domaine de l'histoire coloniale et post-coloniale, est intervenu à son tour pour expliquer en substance ce qu'expliquait pareillement Rokhaya Diallo. Et c'était étonnant, c'était frappant, c'était saisissant de voir à quel point sur ce plateau-là régnait une forme de silence, de déférence et d'attention, si bien que la parole de cet homme-là n'a pas été interrompue et qu'il a pu pleinement asseoir son analyse.
Rappelez-vous les images de Do the Right Thing de Spike Lee. Ces images, elles correspondent à la manière dont depuis 20 ou 30 ans on explique la réalité qui était invisible pour les Blancs.
C'est-à-dire
les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que ressentent les Noirs. Voilà, c'est simple.
Aussi simplement que ça.
Mais oui, ils ne le vivent pas. Vous n'avez pas peur. Quand vous rentrez dans un métro, quand vous êtes un homme noir, vous n'avez pas la même peur qu'un homme blanc.
C'est les hommes et les femmes.
Et les femmes, bien sûr.
Qui ne vivent pas la même chose dans la société.
Non, exactement.
On parle de privilèges blancs aux États-Unis.
Bien sûr. Mais pas qu'aux États-Unis. Hein.
Non, bien sûr, on va y venir, mais parce que dans ça suscite la polémique en France, ça ne pose pas de problème aux États-Unis de dire...
On l'appelle comme on veut. C'est un avantage, un privilège.
Donc on voit bien que quelque chose ici travaille aussi l'organisation des médias, travaille aussi l'organisation des intervenants et des chroniqueurs réguliers dans des émissions de télévision qu'on va qualifier de mainstream et fait ressurgir de manière assez paradoxale le privilège blanc quand tout le monde s'acharne à dire qu'il n'existe pas.
Oui, c'est vrai que dans la langue aussi qui est utilisée dans les médias, et j'en sais quelque chose puisque j'en fais partie, celle-ci n'est pas toujours neutre ni objective comme elle est censée l'être. Et je pense qu'il faudrait faire une longue étude sémantique du terme « interpellation musclée » qui est un élément de langage émanant des forces de police et qui est souvent repris tel quel dans la presse, sans guillemets, qui à la fois minore les faits et place le lecteur ou la lectrice du côté de l'agresseur. Et je pense, par exemple, aussi pour les articles parlant des personnes migrantes, que le terme « évacuation » paraît également impropre. Il faudrait plutôt parler de répression, voire de rafle, qui est un terme qui est chargé historiquement, mais qui s'applique dans ces cas-là. Et en fait, tout ça pose la question simplement des opposants à la police et de leur répertoire d'action, et interroge en fait la notion même de violence politique, puisqu'elle a l'air de rester assez floue pour une partie de la presse. Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est de la violence d'État? Est-ce que ce sont des émeutes? Est-ce que c'est du hooliganisme? On voit des mots très différents être utilisés, les heurts, les affrontements, voire les pillages. Alors quand on parle de manifestations pacifiques, de personnes paupérisées qui prennent parfois de quoi manger, voilà, ça interroge. Et à propos du mouvement Black Lives Matter et des mouvements qui ont lieu aux États-Unis actuellement, la démocrate Maxine Waters a raison de rappeler que le terme émeute était impropre. En anglais, on parle de riot. Et d'ailleurs, les militants et les militantes LGBT et LGBT+, ne souhaitent pas non plus que l'on parle d'émeute à propos de l'épisode du bar du Stonewall. Donc c'était en 1969, c'est un épisode d'insurrection populaire contre les forces de police. On évite d'utiliser le terme émeute.
Et ça me fait penser aussi que ces derniers jours, quelques temps après le déconfinement, on a pu assister dans les rues de Paris à de très grands défilés de personnes sans papier qui réclamaient des régularisations et l'inscription de leur situation dans droit commun. Et on a vu émerger des prises de parole ou même des papiers dans la presse écrite faisant état d'invasion de personnes qui n'auraient pour vocation que de vivre dans l'ombre et dans le silence. Donc effectivement, les catégories de perception médiatique montrent à quel point les médias sont aussi un lieu de fabrication de ces problèmes-là. Comment les médias constituent des phénomènes politiques en problèmes publics sur lesquels on demande à l'État d'agir. C'est extrêmement, extrêmement fort. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Clémentine, de ton expérience sur cette question-là?
Oui, alors moi je crois que j'ai jamais été autant en manif que cette année, puisqu'il y en a eu tellement, entre le climat, les retraites, etc. Et évidemment, quand je suis en manif, j'ai la perception très évidente, presque naturelle, qu'en tant que personne blanche, je ne suis pas visée. Après, j'ai aussi l'impression, comme tout le monde, que quand on est nassé, c'est-à-dire pris en tenaille par des forces de police, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun recours possible. Et c'est vrai que quand on manifeste, la garde à vue, aujourd'hui en tout cas, fait vraiment partie des possibles, et je pense qu'on l'a accepté malheureusement, et en fait ça joue vraiment dans la dissuasion pour ne pas exercer son droit à manifester. C'est quand même assez peu démocratique, et je pense que tout ce qu'on a pu voir, même circuler comme vidéo ces derniers mois, on a vu que des personnes pacifiques se faisaient gazer sur des trottoirs sans avoir rien fait, y compris dans des manifs pour le climat et autres, et que ce traitement n'était pas réservé aux Black Bloc ou aux casseurs. Alors ça, c'est encore une autre catégorie qui a été construite sans qu'on sache très bien ce qu'elle recoupe. Et avec un ami, on en est même arrivé à vouloir écrire un manuel pour enfants qui s'appellerait « Ma première garde à vue ». Voilà.
C'est une bonne idée. Vous en êtes où de cette idée?
Ça n'a pas avancé pour l'instant, mais voilà, ça suit son chemin.
Mais c'est un livre qui, malheureusement, a peut-être de l'avenir.
Ouais,
c'est
peut-être
quelque chose à considérer, ouais. Effectivement.
Et toi, tu as quelque chose à ajouter ?
En tant que jeune femme perçue comme arabe, j'ai des souvenirs très précis de contact avec la police. Ça remonte à quelques temps, je me rappelle à l'adolescence, vers la fin de l'adolescence. Avec ma famille, on vivait dans un quartier, et puis pas très loin de ce quartier, des populations roms s'étaient installées. Et j'ai vraiment un souvenir très précis d'une période où la police circulait beaucoup entre les barres d'immeubles, dans les ruelles du quartier, etc. Et il se trouve qu'ils étaient très souvent à la recherche de jeunes filles issu de ce groupe social-là, de la communauté rome. Et j'ai vraiment le souvenir précis de policiers qui nous disaient, en nous parlant à nous, les filles, on pouvait jouer dehors, etc. Mais en même temps, vous avez toutes les cheveux longs, c'est super difficile, en fait, on ne sait plus qui est qui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé
On ne peut plus hiérarchiser les gens, quoi.
Ouais, c'est ça, c'était leur indicateur, les cheveux longs des filles qui marchent dans la rue, qui sont susceptibles de s'être rendues coupables d'un vol à l'épicerie ou d'autres choses. Et ma mère, du coup, à une époque, les mères nous demandaient d'attacher nos cheveux pour qu'en tant que fille, on puisse se distinguer des autres filles, en fait, qui, elles, potentiellement...
Incroyable.
Voilà, c'est un élément parmi d'autres pleinement subjectif de ma propre histoire, mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et ça dit aussi qu'il y a un rapport spécifique des agents de police à l'égard des femmes. Il faudrait presque, encore une fois, faire un épisode dédié à cette question-là, mais cette question, elle existe bien.
Bien sûr. Et alors, on s'est rendu au rassemblement qui a eu lieu le 2 juin dernier devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'appel du comité Adama Traoré, et on a recueilli quelques sons et quelques témoignages. On les écoute. I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe!
Alexia.
Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venue aujourd'hui ?
Je suis venue aujourd'hui parce que pour moi c'est une cause hyper importante. On s'est souvent tués, on a souvent laissé les gens faire. Mais je pense qu'actuellement c'est hyper important de se battre. Ça touche les gens aux États-Unis, mais ça touche également les gens en France. La cause d'Adama, en fait, on a souvent hésité à venir parce que voilà, on s'est dit voilà, on va être violenté ou autre, mais une voix plus une autre voix, je me suis dit aujourd'hui c'était important de venir.
Et est-ce que tu as déjà été à d'autres manifs ou ça va?
C'est la première. Enfin, si j'ai déjà été à celle de Charlie, nous sommes tous Charlie, et je me suis dit pourquoi je vais à celle de Charlie et pas celle d'Adama alors que ça me cause, enfin ça me touche directement, donc voilà.
Assassin, police, assassin, police, assassin, police, assassin, police, assassin, police, assassin.
Je m'appelle Kevin, je viens de Maisons-Alfort. Parce que je suis noir et qu'il y en a marre. Non, parce que je suis noir et vraiment il y en a marre. Et c'est une situation pas facile. Je pense que c'est pire aux États-Unis, mais on vit à peu près la même chose ici. J'ai pas l'impression, je fais affaire à beaucoup de contrôles de police. J'ai même été emmené en garde à vue pour rien. Voilà.
Alors on peut aussi donner quelques conseils, notamment de télécharger l'application dont on a déjà parlé, Urgence Violence Policière, qui sert à filmer et à dénoncer les violences. On vous recommande aussi d'écouter le podcast Gardien de la Paix sur Arte, qui parle donc de ce groupe WhatsApp raciste qui existe au sein de la police, et également de lire, mais la liste n'est encore une fois pas du tout exhaustive, et vous pourrez retrouver ensuite d'autres références de lecture. Le livre de Rény et de Lodge, le racisme est un problème de blanc, qui a l'avantage d'être assez explicite.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Et alors dans la pop culture, justement, sur la manière dont on a pu mettre en scène les violences policières, il y a le film Les Misérables qui a remporté un César en février dernier.
Oui, c'est un film qui a été réalisé par l'Adjli.
Contrôle de police, vous faites quoi là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Qui a été tourné à Montfermeil et qui revient sur l'histoire d'un petit garçon qui va être aux prises, c'est le moins qu'on puisse dire, avec trois policiers qui vont tenter de régler des affaires et ces affaires ne vont pas être réglées sans que le destin de ce jeune garçon en soit marqué. Donc, c'est un film à voir. Et je pense que ça fait partie de ces films qu'il est intéressant de voir, de laisser reposer dans son esprit et de se plonger quelque temps après dans les différentes critiques qui ont pu en être faites sur des blogs ou sur des sites spécialisés. pense que par rapport à cette question-là, où la dimension politique est assez présente, la question de la manière dont elle la représente à l'écran est tout aussi importante. Donc voilà, essayer de faire croiser différents niveaux de lecture peut élargir encore plus la compréhension de ces phénomènes.
Et d'ailleurs, le président de la République, en personne, aurait vu Les Misérables à l'Élysée. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas eu de conséquences très concrètes. Mais on est ravis qu'il ait été ému par ce visionnage. On peut aussi vous recommander de regarder sur Netflix la mini-série Dans leur regard.
Est-ce que ma mère est là ?
Il n'y a plus que nous. Toi et nous.
Avec qui tu étais au parc ?
Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu.
Où as-tu vu la jeune femme ?
De qui vous parlez ?
La jogueuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect.
Qui parle d'une affaire assez retentissante aux États-Unis, c'est celle des Central Park Five, donc des ados afrodescendants qui ont été arrêtés à tort pour le meurtre d'une joggeuse blanche à Central Park et qui ont été forcés de se confesser par la police. Voilà, donc c'est une histoire vraie.
Donc comme nous avons essayé de vous le montrer avec Clémentine, la question policière, c'est une question éminemment politique qui met en jeu des institutions, des administrations, des histoires, un espace public qui est à contrôler. Mais il me semble, et c'est important de le dire, que cette question policière, elle existe aussi à des échelles plus intimes et en particulier à l'échelle familiale, puisque la socialisation d'un certain type d'enfant, les enfants susceptibles d'être un jour confrontés à la police du fait, par exemple, de leur origine de classe ou de leur origine ethno-raciale, sont vraiment marqués par des formes de conseils, d'ordres, un ensemble de choses qui font que les parents alertent les enfants sur les risques qu'ils sont susceptibles de courir. Alors, ces éléments sont peut-être plus fréquent aux États-Unis, quoi qu'on n'ait pas d'enquête qui nous dirait ce qu'il en est au sein des familles françaises. Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et important de rappeler, à savoir le fait que certains parents ont avec leurs enfants ce type de discussion et prennent le temps de les mettre en garde pour potentiellement, par la suite, épargner leur vie.
Et de leur faire répéter des phrases apprises comme au théâtre. D'ailleurs, il y a une scène de la série Grey's Anatomy qui revient là-dessus.
I am William George Bailey. I'm 13 years old and I have nothing to harm you. That's good, baby. You always have to show the police where your hands are.
Et ça faisait aussi l'objet d'un débat familial dans la série Blackish, qui a consacré tout un épisode à la question.
Let's say they listen to the cops and get in the car. Look what happened to Freddie Gray.
Yeah, and what if they make it all the way to the station? Mm-hmm. You remember Sandra Bland?
And let's say they do make it to trial. Mm-hmm. You see where that gets us?
Ces jours-ci, en tout cas aux États-Unis, il y a eu pas mal d'appels de la culture à annuler tout simplement la diffusion et la production des films et des séries policières. Ça, c'est le Washington Post qui en parle. De son côté, le magazine Vox a lui aussi recensé comment 70 ans de séries policières nous ont appris à valoriser la police, donc en mentionnant des séries comme The Wire ou Brooklyn Nine-Nine, qui est plutôt une comédie, alors que à l'origine, Hollywood mettait en scène la police comme des clowns incompétents. Ce regard a changé, notamment parce que les années Reagan sont passées par là et ont durci le discours et les représentations, mais aussi parce que les autorités de police collaborent souvent avec Hollywood à l'écriture de ces fictions. Voilà, ce qui peut être une collusion assez problématique. Le Washington Post s'est également demandé ce que la culture montre des policiers minorisés à l'écran. La réponse, elle est variée, mais elle est en tout cas souvent que ces personnes finissent par entrer dans le moule. Le cas des femmes policières peut être intéressant. Ça, c'est le site Wonderwall qui s'est interrogé. Est-ce que les femmes flics sont de meilleurs exemples ? Est-ce qu'elles seraient naturellement, en tout cas, meilleures que leurs confrères masculins, et donc le site passe en revue Frances McDormand dans le film Fargo, jusqu'à Sandra Oh qui joue dans la série Killing Eve dont on a déjà parlé ici.
I know something happened to you. I know you're a psychopath.
Et enfin, le New York Times s'est demandé comment les scénaristes blancs justifient la violence policière, l'usage de la violence policière dans les fictions, en plaçant souvent un personnage de policier qui a de bonnes raisons de faire le mal. Et donc, voilà, c'est un stéréotype qu'il faudrait sans doute repenser pleinement en ce moment.
On peut remarquer aussi que la représentation d'une violence policière, donc d'un acte policier qui engendre une forme de détresse, qu'elle soit symbolique ou physique pour la personne qui l'a subie, est un élément qui est assez récurrent dans le film The Hate U Give.
Descendez de la voiture. Star, est-ce que ça va ?
Remets les mains sur la voiture. Fais ce qu'il te demande.
Stop !
Mais aussi dans les séries Atlanta, Insecure ou The Chi, et c'est notamment aussi le déclencheur du film de cavale Queen and Slim.
Vous avez pas mis le clignotant tout à l'heure.
Ah, autant pour moi.
Sortez du véhicule.
Je peux savoir pourquoi ?
Non, vous pouvez pas. Les mains sur la tête et mettez-vous à genoux.
Et alors, tout ça donne lieu à diverses arcs narratifs, diverses stratégies d'écriture. Par exemple, placer un gentil flic noir, ou pire, un gentil policier blanc, censé équilibrer la donne et donc donner le change de manière très didactique. Donc ça, c'est vraiment un problème d'écriture sur lequel il faudrait travailler. Il y a aussi la question du trauma, puisque tu le disais, tout cela peut servir une forme de voyeur. Dans ces cas-là, on parle de trauma fétiche lorsque ces scènes viennent retraumatiser le spectateur ou la spectatrice en dramatisant des scènes de violence policière. D'ailleurs, c'était le sujet du débat autour de la diffusion du film de Catherine Bigelow, Détroit. US Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police. Are continuing the fight against a handful of snipers. Qui revenait sur les manifestations raciales qui ont eu lieu en 1967, notamment au Algiers Motel, et la manière dont ces insurrections sont filmées, c'est parfois vraiment insupportable à regarder, et il a été écrit ici et là que les personnages noirs pouvaient être réduits à leur statut de victimes de manière voyeuriste. Alors, on ne va même pas s'attarder sur la publicité pour la marque Pepsi qui mettait en scène Kendall Jenner pactisant face à la police, voilà, grâce à du soda et s'inspirant du mouvement Black Lives Matter.
What the fuck is that?
Qui était vraiment une honte. Mais on vous recommanderait plutôt de regarder un documentaire qui est en accès libre en ce moment sur YouTube. C'est À nos corps défendants de Yann B. Vous pouvez également revoir le film de Spike Lee, son premier film Do the Right Thing, qui parle justement des violences policières. Et je crois que la musique aussi s'est intéressée pas mal à toutes ces questions.
Oui, il y a une filiation, une relation très, très aiguë entre les mondes du rap et cette question policière, et c'est quelque chose d'assez évident du fait que les mondes du rap sont héritiers de toute une histoire de la racialisation, que ce soit par son versant colonial ou par son versant esclavagiste. On peut citer par exemple le classique Fuck the Police de N.W.A. On peut citer aussi la chanson All Right de Kendrick Lamar. Bad trips like, yeah, Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be all right. Qui est devenu un des hymnes quasi officiels du mouvement Black Lives Matter. On peut évoquer aussi l'hommage à Walter Scott, assassiné par la police en 2015, qui lui a été rendu par Janelle Monáe. Et on peut aussi évoquer l'hommage qui a été rendu par Blood Orange à Sandra Bland dans la chanson Sandra Smiles. Watch the pass away. The words she said were faint. Et pour le versant des raps en français, on n'est pas en reste puisqu'on peut citer le désormais historique morceau Sacrifice de Poulet par le ministère amer qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a largement fait parler de lui à une certaine époque, et peut-être encore plus proche de nous, on peut citer le morceau non moins devenu historique entre temps, Fuck le 17 du groupe 13 Blocs.
Et alors on va passer aux recommandations culturelles. Qu'est-ce que tu as à nous recommander ce mois-ci ?
C'est une recommandation qui n'est pas immédiate, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de patience pour pouvoir la satisfaire, mais en tout cas personnellement c'est un livre que j'attends avec grande impatience. C'est un ouvrage qui est dans la droite lignée de ce que nous nous sommes dit jusqu'à présent, et cet ouvrage est titré La race tue deux fois, Une histoire des crimes racistes en France, 1970-2000, qui est l'ouvrage de la sociologue Rachida Brahim, qui paraîtra prochainement aux éditions Sileps, et prochainement, ça veut dire décembre 2020. Donc j'ai hâte. Et toi, Clémentine, de ton côté ?
Merci pour le teasing, ouais. J'espère qu'on pourra le précommander. Moi, je voudrais recommander un recueil de nouvelles, de textes courts, qui s'appelle « Ceci est mon corps », et c'est publié aux éditions Rajo avec le magazine Cosette. En fait, c'est une série de textes à destination des ados, une fois n'est pas coutume, autour de la question du corps et qui mobilise donc des journalistes, mais aussi des autrices comme Faïza Ghen, Ovidie ou encore Louise May. Et ça parle à chaque fois d'une partie du corps, donc les cheveux bouclés naturels, les seins, la grossophobie et le harcèlement au collège. Et à titre personnel, j'ai été intéressée par le chapitre qui traite du syndrome de l'intestin irritable, dont on parle assez peu et que j'ai personnellement. Et donc, du coup, je trouve ça très bien qu'on parle de cette maladie chronique, surtout aux adolescentes et aux adolescents, puisque peut-être qu'ils et elles ne la connaissent pas. Voilà.
Allô, allô.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors cette semaine, on a un message d'auditrice, donc c'est Pamela qui nous a écrit « Comment expliquer à une femme blanche de checker ses privilèges ?» C'est tout à fait d'actualité et je suis toute oui étant concernée par la question.
Donc la question du privilège blanc, comme on a pu le dire jusqu'à présent, c'est une question complexe et c'est une question que personnellement je peux comprendre, je peux imaginer comment des personnes à un moment donné viennent à s'interroger là-dessus, et c'est plutôt intéressant puisqu'une grande partie du travail militant vise aussi à visibiliser ces formes d'inégalité. Je ne suis pas tout à fait à l'aise, on va dire, avec l'usage que l'on fait faire parfois à cette notion de privilège blanc. Pour moi, c'est quelque chose qui se justifie d'un point de vue théorique et qui veut dire de manière très simple que l'une des caractéristiques de la condition blanche, c'est d'épargner aux individus blancs la possibilité d'être victime de discrimination raciale dans un nombre assez important, voire dans l'ensemble des activités sociales, que ce soit du côté de l'accès au logement, de l'accès aux soins, de l'accès au marché du travail avec un poste adéquat aux compétences possédées, la question du système scolaire, la question évidemment du traitement juridique, du traitement policier, etc. Donc évidemment que la question du privilège blanc existe, et c'est bien parce qu'un privilège blanc existe qu'un non-privilège non blanc existe. Et c'est bien là le lieu de production des injustices. Donc là-dessus, on est d'accord. Est-ce que j'irais jusqu'à demander ou inviter ou attendre même d'une femme blanche qu'elle check ses privilèges ? Personnellement, je le ferais pas. Parce que, sans mauvais jeu de mots, j'ai le sentiment que ça me met dans une position de flic ou de flicage des autres, qui moi personnellement me met pas particulièrement à l'aise. C'est pas une position dans laquelle je me sens bien. Et surtout, d'un point de vue cette fois-ci beaucoup plus sérieux et profond, j'ai le sentiment que l'usage de cet élément-là du privilège blanc, c'est aussi une manière d'individualiser la problématique. Or, le but, ce n'est pas d'individualiser les problématiques politiques, c'est d'y apporter des réponses politiques. Donc, c'est-à-dire des réponses qui visent l'organisation des institutions, l'organisation des cadres sociaux, l'organisation des ordres policiers, sexuels, raciaux, etc. Ma posture, elle est plutôt de considérer et d'inviter cette jeune femme qui, tout d'un coup, s'interroge à aller sur Internet ou à prendre son téléphone ou à sortir dans la rue et à rejoindre les organisations qui existent et qui se battent autour de ces questions-là, de faire des dons, de participer aux manifestations, de participer aux assemblées générales, d'aider ce qui existe déjà en fait, d'apporter sa force individuelle à un collectif qui a besoin de cela pour pouvoir grossir ses rangs et avoir pour lui aussi la force du nombre. Donc voilà, donc j'espère que ma réponse n'apparaît pas trop alambiquée. D'un point de vue théorique, je pense que la chose est évidemment puissante. D'un point de vue pratique, militant et politique, je pense qu'il vaut mieux penser de manière collective, collectivisante, et soutenir les organisations qui existent déjà. Ce sera une manière de faire un usage politique d'un privilège blanc en particulier. Et pour ceux qui souhaiteraient approfondir cette question du privilège blanc et de sa critique, vous pouvez notamment vous référer au podcast qui a consacré Fania Noël, intellectuelle et militante travaillant autour des questions de l'afroféminisme. Vous retrouverez la référence en indication sous l'émission.
Oui, c'est quelque chose qu'on a pas mal vu sur Twitter récemment, en tout cas une manière de s'interpeller les uns les autres et surtout les unes les autres, que moi j'ai pas trouvé très productive, effectivement. Voilà, après chacune fait comme il et elle veut, voilà.
Mais je pense que c'est important de bien distinguer ce qui relève de l'analyse théorique et de considérer que la théorie c'est extraordinaire, et c'est encore plus extraordinaire quand on en fait des usages politiques puissants et pas réducteur ou autre. Le but, ça reste la transformation des institutions. Et la transformation des institutions passe pas par la transformation des individus. Même si c'est quelque chose qu'on entend souvent, change tes désirs et le monde changera. C'est plutôt l'inverse.
C'est plutôt l'inverse, oui, c'est ça. Bon, bah écoute, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle, ainsi qu'une bibliographie sur la question dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aidera à être mieux référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de séries télé. Salut, merci Kaoutar.
Merci.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo
et Kaoutar Archi.
Mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination Ashley Tola.